J'étais un peu rond jusqu'à mes 15 ans et j'ai énormément souffert. Et on m'appelait la grosse à l'école. Pas le gros, hein, la grosse. On m'a offert un soutien-gorge parce que j'avais des seins à l'école. Enfin non, c'était vénère.
Wow. Ouais. Est-ce que tu as déjà fait un service bourré?
Ah oui, plein.
Ah.
Un paquet.
Ok. C'est bon, ton moyen mémotechnique de tout à l'heure.
Ah, mon moyen mémotechnique pour mon nom de famille.
Ah non, attends, on va en parler.
Si, ça commence bien.
On va en parler.
Ça n'a même pas démarré, il m'a déjà baisé la gueule deux fois. Incroyable.
Bon, allez, c'est parti.
Bienvenue.
Dans ce nouveau numéro du Foodcast, les amis, j'ai le plaisir de recevoir le plus français des chefs colombiens, Juan Arbelez. Ah putain.
J'étais sûr. Je l'ai eu.
Bah, en fait, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, moi, depuis des années, je dis Juan Arbelez.
Ouais, c'est pas ça.
Et en fait,
mais t'es pas le seul.
Mais c'est Juan Arbelez.
Alors, je vais t'aider. Regarde, j'ai la technique. Tu sais cet endroit incroyable où il fait beau, ensoleillé, où t'as envie d'aller en vacances, qui s'appelle Marbella. Tu sais dire Marbella. T'enlèves le M et à la fin de Marbella, tu rajoutes S.
Arbelez.
Marbelez.
Arbelez.
Voilà, tu l'as.
Putain.
C'est nickel.
Génial.
Bravo.
Juan. Attends.
Bon là,
attends, il faut réfléchir.
Là, c'est un problème ailleurs.
Parce que j'allais dire Juan Marbelez. Non, Juan Arbelez.
Parfait.
Yes.
Nickel. Impeccable.
Ah, ça fait plaisir. Ça fait 10 ans que je prononce mal ton nom de famille. Hein.
Je sais, mais t'es pas le seul. Franchement, je suis passé à autre chose.
Okay.
Je me suis battu les premières années. Et à un moment, je me suis dit que c'était pas vous le problème, c'était moi le problème.
Oh.
Mon nom de famille est trop complexe et trop galère. Et en vrai,
pour les Français, peut-être.
Ouais, pour les Français, c'est difficile. Le R, le B, le L, le A, E, Z, c'est hyper galère.
Bon.
Donc j'ai lâché.
Bon, en tout cas, t'es né à Bogota.
Ouais, exactement.
Dans une famille qui était... Quel style de famille? C'était une famille... T'étais riche, pauvre, dans la classe moyenne?
Je viens de Bogota. Je viens d'une famille qui est... Je dirais qu'on n'a jamais été pauvre. On a toujours vécu... Il y a toujours eu à manger. Il y a toujours eu de quoi s'habiller. On a toujours eu un toit. On n'était pas riche. Il y a eu des périodes qui étaient un peu meilleures que d'autres parce que le pays, dans les années 80, a vécu des situations qui étaient un peu complexes et que mon père, à un moment, s'est retrouvé pendant quasiment 7 ans sans travail.
Ok.
À cause
il était dans quoi?
Il était avocat et il bossait aux douanes.
Ah oui.
Et le problème, c'est que dans les années 80, quand tu as ce genre de poste, soit tu acceptais de faire partie des magouilles, soit on te remerciait gentiment. Et du coup, il s'est retrouvé, le taf pour lequel il avait bossé, il s'était formé, bah, on lui a fermé toutes les portes. Donc c'est ma mère qui a tenu la maison pendant 7 ans. Et on a vécu des moments qui étaient un peu plus compliqués.
Et ta maman, elle faisait quoi?
Ma mère, elle avait des cantines d'école. Des petites cantines où elle faisait manger pour les gamins.
Ah, donc la cuisine était déjà quand même assez présente.
Ouais. Ils ont tenté plein de trucs dans la cuisine. Mon père, derrière, il voulait planter des patillas, merde, pastèques. Il a fait une énorme plantation de pastèques. Il a eu une couille dans le pastèque et il a tout perdu, tous les économies qu'il avait mis dans le truc, un truc affreux. Il a essayé derrière de faire du riz et en fait il s'est rendu compte que le fait de planter du riz, c'est une des plantations les plus où il y a le plus de pesticides qui existent. C'est un enfer, tu rentres avec des combinaisons et t'arroses comme un malade. Donc il a décidé d'arrêter, bref, plein d'épopées comme ça. Mais on a grandi avec l'envie de la cuisine depuis très petit.
Et c'est ton grand-père qui t'a vraiment donné le goût de la cuisine?
Mon grand-père était le... Je pense que c'est celui qui a transmis à tout le monde l'amour de la nourriture.
On le voit là.
Voilà.
Regardez.
C'est un grand monsieur qui n'a pas beaucoup voyagé, qui a toujours vécu en Colombie, mais qui avait un espèce de cerveau rêveur d'avoir envie de vivre toujours plus grand, de vivre toujours plus beau, de raconter des histoires plus belle et d'ailleurs toujours habillé avec un petit foulard à l'italienne, très européen, alors qu'il n'est jamais sorti de Colombie.
Il s'était toujours apprêté, était toujours...
Toujours très élégant. Il avait un amour pour la cuisine italienne, mais monstrueuse, un amour pour la France incroyable. Ma mère s'appelle Jeannette, ma tante s'appelle Lucette.
Non mais incroyable.
J'ai mon oncle qui s'appelle Christian Pierre, mais ils avaient jamais eu la chance de sortir en France.
Juste par amour en fait de la ouais. culture française.
Ouais, c'était un fan de la France, c'était un fan de la gastronomie, c'était un fan de l'Europe. Hein. Tu sais, c'était en Colombie dans les années, ouais, pareil, enfin 70, 60, 60 tout ce qui était bon venait de l'étranger. On s'est toujours dit, on a vécu avec une espèce de complexe d'infériorité où c'était vraiment les États-Unis et l'Europe qui étaient plus forts que nous. Quoi. Donc il y avait cette notion de fan.
Et là, il est toujours parmi nous, ton grand-père ?
Non, il est parti il y a 5 ans.
Il a quand même eu le temps de voir ce que tu étais devenu ?
Il a compris. Ah. Il a compris, il a vu quelques articles que j'ai ramenés. J'ai fait une couverture d'un magazine qui est assez connu en Colombie. Du coup, il était très fier. Mais j'ai jamais réussi à le faire venir pour goûter. Ouais.
C'est un regret, ça.
Moi, j'aime pas vivre avec des regrets. C'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire. Mais c'était trop tard. Il pouvait plus bouger. Et voilà, il a réussi à le comprendre. J'aurais adoré qu'il soit là.
Tes parents, eux, oui, ils sont.
Oui, pour le coup, mes parents, j'ai réussi. Bah, je les fais venir où j'y vais en Colombie une fois par an. Et à chaque fois qu'ils viennent, enfin j'ai ouvert mon premier resto il y a 15 ans maintenant, et à chaque fois qu'ils viennent, tous les ans, ils voient un peu l'évolution. Aujourd'hui, on gère 19 restos, donc quand on arrive, par exemple, pendant les Jeux Olympiques et qu'on a accès à des trucs absolument inimaginables grâce au métier.
Ils prennent conscience.
Ouais, c'est assez incroyable.
Pour revenir sur ton enfance, donc Bogota, ton premier plat, j'ai lu que c'était une quiche lorraine. Le premier plat que t'avais tenté, c'est quoi cette histoire ?
Ouais, t'es bien renseigné, ouais. Je sais pas si on peut appeler ça un plat. Hein. L'histoire, elle est trop marrante parce qu'en vrai, je lance la quiche lorraine. J'ai
Donc déjà, culture française.
Ouais,
mais oui. La quiche lorraine, c'est pas un plat colombien que tu fais.
Le boulot de mon grand-père, bien fait, qui nous a toujours fait comprendre que la gastronomie française et européenne était absolument incroyable. Donc je commence à chercher comment faire une quiche lorraine. Ça s'appelle une miguenne. Tu sais, cette miguenne, c'est le mélange d'œufs avec soit du fromage, soit le lard, c'est ce que tu mets à l'intérieur de ta quiche. Et qu'en cuisson, bah, normalement, durcit. Donc moi, je lance ma recette. Je suis trop saucé, je suis trop chaud. Je vais faire à bouffer pour la première fois. Et je lance cette recette. Je prépare mes lardons, je prépare tout, je mets au four. Et là, je regarde, il faut 30 minutes de cuisson ou 35 minutes de cuisson, je mets 35. J'arrive et je sors le truc, et le truc, il est tout liquide, quoi.
Bah oui.
J'ai trop bizarre. Bon, je remets 15 minutes, je reviens 15 minutes après, je bouge le truc. Trop liquide, même une soupe, quoi. Mm-hmm. Ça n'a même pas mais coagulé un moins de truc, ni le rebord. Je dis, mais trop chelou. Je remets 15 minutes et à un moment, en train de fermer le four, je lève la tête et je vois au-dessus de moi les œufs.
Les œufs. Magnifique.
Je les ai pas mis. J'ai mis de la crème avec du lard. J'avais mis un peu d'oignon et j'avais assaisonné. J'ai oublié les œufs.
Donc ça ne prend pas. Sachez que sans les œufs, ça ne prend pas.
Ça ne marche pas.
Mais
comme quoi, hein, tu vois, on démarre de très loin.
Mais t'avais quel âge ?
J'avais 14 ou 13 ans.
Ouais, bon, ouais. Voilà, on fait tous des erreurs au début.
On nous pardonne au début, ouais.
Et
un
malgré
peu moins
tout,
aujourd'hui. Hein, mais...
Ouais, mais tu fais plus ce genre d'erreur, rassure-nous.
Ouais, on continue à faire des erreurs. On continue à faire des erreurs.
Est-ce que déjà tu rêves de revenir là-bas, vivre définitivement, ou ça y est, maintenant, ta patrie, c'est la France ?
À la base, je venais que pour 2 ans. Je voulais apprendre la cuisine, les techniques, le savoir-faire, et je voulais retourner chez moi pour ouvrir mon resto là-bas. Mon rêve, c'était d'ouvrir mon premier resto avant 40 ans. J'étais... Oui, c'était un rêve de rentrer. Après, les choses ont fait que j'ai trouvé un boulot chez Pierre Gagnère. Derrière, j'ai trouvé un taf incroyable au Bristol. J'ai réussi à faire le changement parce que j'avais des papiers étudiants. Et j'ai réussi à changer mes papiers pour être salarié, donc je pouvais rester plus longtemps. J'ai bossé au Georges V, j'ai fait Top Chef. Il y a eu plein de choses qui se sont enchaînées. L'ouverture de mon premier resto. Et à chaque... Tous les 6 mois, tu vois, j'avais un espèce de « Waouh, cette expérience, je peux pas la louper. » Donc, je vais reporter de 6 mois ou d'un an l'échéance de rentrer chez moi. Mm-hmm. Là, ça fait 19 ans que je suis parti. On a 450 employés. Donc, rentrer, disons qu'aujourd'hui, c'est pas dans les papiers. J'adore la France. Je trouve que c'est un pays incroyable. Je lui dois énormément aussi, parce que c'est le pays qui m'a appris À cuisiner, c'est le pays qui m'a permis d'avoir un métier, une passion, de me payer un toit, de me nourrir, de rencontrer la femme aujourd'hui avec laquelle j'y suis. Donc en vrai, c'est pas du tout d'actualité. J'adore rentrer chez moi en touriste, parce que je trouve que quand tu vis un pays en tourisme, t'as une ouverture d'esprit qui est différente. Et maintenant, je découvre mon pays avec le regard de quelqu'un qui le connaît moins. Et je suis fasciné par la beauté de ce pays. Donc je pense que je vais continuer à y aller, mais pour l'instant, je suis là.
Dans un instant, on va parler de ton arrivée à Paris. Parce que j'imagine que ça doit être quand même un truc assez fou de débarquer de Colombie, étudiant, jeune étudiant à Paris. Juste avant, j'aimerais qu'on revienne sur un truc que j'ai lu. On peut reparler de cette histoire d'amour à 15 ans avec une femme mariée et beaucoup plus âgée ?
J'ai raconté ça, moi ?
Ah ouais ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Waouh, ça c'est des erreurs de parcours. Je sais pas pourquoi des fois certaines interviews je me laisse aller. Et...
C'est tabou ?
Non. En vrai, non, pas du tout.
On l'embrasse en tout cas.
Ouais, je sais pas ce qu'elle devient. Hein. Je l'ai vue une seule fois de ma vie en plus.
Eh ben, ça, écoute, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à commenter. Ou peut-être.
Peut-être qu'elle se reconnaîtra.
Ouais.
Ouais, j'étais gamin, très
Attends,
jeune.
Elle avait quel âge ?
30-35.
Et c'était il y a.
23 ans.
Non, bah ça va, ça fait quoi ? Ça fait du 60 ans à peu près, ça ?
Ouais. Oui, c'est, ça va.
Ouais, donc elle est toujours parmi nous, certainement.
Elle est parmi nous, on ne sait jamais. elle est parmi nous, j'espère. Ouais, non, en vrai, l'espérance de vie a beaucoup augmenté ces derniers temps. Non, en vrai, ouais, c'était une aventure assez particulière. Elle avait un enfant. Vacances d'été à la plage. Il y avait un village dans lequel on avait l'habitude d'y aller. C'était génial. Moi, je vivais un mois et demi en short. Et je me souviens qu'il y avait cette dame qui était avec son enfant et sa famille.
Oui.
Et je sais pas, je suis dans la plage en train de jouer. Et je joue avec son enfant et on discute et on tchatche.
Ah, tu joues avec son gamin ?
Ouais, son gamin, il rentre et je reste discuter avec elle.
Oh là là.
Et nous, on avait l'habitude d'aller boire des bières dans un petit bar face à la plage qui était assez cool. Et je lui dis, si tu veux, viens boire des bières. Et elle est venue boire des bières.
Trop de bières ?
On a bu trop de bières. Et oui, on a eu une aventure avec cette... Steve Mom.
Et tu te souviens son
prénom ? Steve Mom, c'est Steve ?
Ouais, bien sûr.
C'est Steve, non ?
Ouais.
Tyler, comment il s'appelle son nom de famille ?
La maman de Stifler.
Stifler. C'est la maman de Stifler, quoi.
Ah, t'as vraiment vécu ça, quoi.
Ouais.
Et il ressemblait un peu à.
Blonde, ça a refait.
Ah ouais, ouais. Ok. Ouais. Putain, incroyable.
C'était vraiment
Stifler. J'aimerais tellement qu'on la retrouve. Vraiment, si
ah,
on peut.
Ah, moi, je suis bien, hein, laissant les choses comme ça. Hein.
Tu m'étonnes, il va être papa, hein, je le rappelle. Bon allez, on revient à ton aventure. Donc tu débarques à 18 ans en France. Comment on vit son arrivée en France d'un pays qui est quand même à l'autre bout de la planète, surtout que t'es arrivé un peu sans rien.
Sans rien, c'est un peu exagéré. J'avais quelques pulls,
ouais.
Quelques chaussettes.
Ouais.
Non, j'avais chopé un appart. Tu vois, j'avais un toit déjà. Je payais 500. On avait un appart, on était 4 dedans. Il y avait 4 chambres et un salon, et moi je dormais dans le salon.
Okay.
Et ouais, ils avaient.
Attends, excuse-moi, vous étiez 4, il y avait 4 chambres.
Ouais.
Et toi, tu dormais dans le salon.
Ouais.
Pourquoi t'avais pas une chambre, toi ?
Bah, parce que c'était trop cher. Et en vrai, j'avais où dormir. Donc j'avais quand même quelque chose, tu vois. C'est pas la pauvreté. C'est pas la misère.
Oui, oui.
J'avais de quoi manger et. Et j'avais dégoté un boulot incroyable dans une école de cuisine qui s'appelle le Cordon Bleu, ouais. Dans le 15e arrondissement. Mmh.
C'était quoi ? T'étais étudiant dans cette école ?
Je bossais
dans cette école ?
Je bossais pour payer mes études.
Okay.
En gros, j'ai réussi à trouver une espèce de bourse dans laquelle je faisais le déjeuner pour les chefs et les mises en place pour les cours. Et en échange, je pouvais valider des diplômes. Et au moment où je devais faire les diplômes pour les valider, bah, j'avais déjà cuisiné, j'avais déjà passé quasiment toutes les étapes. Et d'ailleurs, je fais un des examens finaux. Il y a un des étudiants qui se présente pas. Et je me présente à sa place. Et j'ai la meilleure note du truc. Donc je me dis, bon, je vais essayer de trouver un boulot. Et un des jurys du, du testing final, du concours final, il me pose la question de qu'est-ce que je vais faire, et je lui dis que mon rêve c'est de rentrer chez Pierre Gagnaire. Et il sort son téléphone et il appelle Pierre Gagnaire, et lundi je commence chez lui.
Ah mais c'est fou, ouais. Ça se joue quand même à
un coup des coups de bol, chaton,
ouais.
Un coup de chat.
Et, et en plus tu vas bosser avec un mec qui est quasiment ton idole.
C'était mon rêve. Enfin, en Colombie, tu vois, on n'avait pas tous les livres de Gagnaire, mais je faisais chier les libraires gastronomiques pour me trouver le livre de Gagnaire à l'époque, quoi. J'allais sur le site internet. Je me souviens qu'il y avait une vidéo incroyable qui montrait une journée chez Pierre Gagnaire. Quand ça démarrait, la cuisine, les casseroles, tu voyais tout ce qui se passait. Et c'était une horloge suisse, tu vois, tout était méticuleux. Je trouvais ça incroyable. Et quand on me dit, t'as un essai lundi là-bas, je suis comme un ouf.
Et tu débarques comment le premier jour ?
La bite et le couteau. Je savais cuisiner, tu vois, dans une école de cuisine et faire des mises en place, mais j'avais jamais bossé dans un resto.
Mais tu le vois directement le premier jour ou pas ?
Non. Okay. C'est Thierry Méchinou qui m'accueille, qui est son chef de cuisine rue Balzac. Et là, je débarque, fleur au fusil. J'avais pas les papiers, j'étais encore étudiant. Et j'ai réussi à convaincre le Cordon Bleu de me faire un contrat de stage.
Une convention de stage. Ouais.
Du coup, j'ai 4 mois. Je fais le test lundi, j'ai la convention de stage, ça se passe très bien. Je fais une semaine et ça se passe nickel. C'était une équipe assez petite, on était 11 en cuisine pour faire 50 couverts en 3 étoiles. Enfin, c'est vraiment tout petit. Et ce qui est génial, c'est que ça te permet de toucher un peu à tout quand t'es dans une équipe réduite. Moi, j'ai commencé aux amuse-bouches, je suis passé au garde-manger et je donnais à la fin des coups de main à la viande, au poisson, un peu partout, quoi. Et j'ai réussi à renouveler ma convention de stage 3 fois. Je fais 10 mois, presque un an chez lui. Mon moyen de transport, finalement, j'ai réussi à m'acheter un vélo que je dégote à 50 balles. une seconde main, le vélo hollandais à l'ancienne, quoi.
Ouais.
Et que je garde chez lui pendant les fêtes. Je sors un jour hyper tard et mon vélo, il est plié. Mais vraiment, là, des gens, ils l'ont pris à coups de pied, plié en deux, je le prends à l'épaule, je rentre chez moi, je me dis, il faut que je réussisse à le réparer parce que t'as pas trop de moyens.
Ouais.
Je me dis, il faut que je règle le truc. Je prends le métro le lendemain, je suis à la bourre parce que c'est la première fois que je prends le métro pour aller au Balzac. Et je prends un énorme tir.
Ça veut dire quoi, un énorme tir pour
Je me fais engueuler parce que je suis à la bourre.
Okay.
J'arrive à 6h30 au lieu de 6h. Et...
Ouais. Et ça rigole pas en cuisine en plus.
Non. On n'a pas trop. Enfin, on est 11, tu vois, quand t'arrives une demi-heure en retard, tu mets toute l'équipe en retard. Donc, en vrai, t'as pas le choix.
Ouais,
quoi.
Ouais.
Et je me fais remonter les bretelles, je rentre chez moi. Le soir, ma mère m'appelle. Et au téléphone, je lui dis, putain, c'est quand même quelque chose, quoi. C'est violent, c'est dur, c'est passionnant. J'apprends tous les jours, mais c'est un métier dans lequel t'as pas le droit à l'erreur. La gastronomie, la haute gastronomie, les 3 étoiles, t'as pas le droit à l'erreur. Tout est millimétré, quoi. Et je me mets à pleurer, je lui raconte l'histoire. On raccroche. Et le lendemain, j'arrive au boulot. Il est 11h30, Gagnaire, il débarque. Veste ouverte avec son tour de cou. C'est qui, Juan, le Colombien ? C'est moi. Il me dit, je veux te voir à 15h dans le bureau. Et je fais, putain, bah, ça y est, je suis viré, je suis arrivé en retard. Donc je finis le service, je débarque au bureau à 15h. Et il est avec ses lunettes ici, il se retourne et dit c'est qui Jeannette ? Et je dis, mais comment il connaît le prénom de ma mère ? Et donc je dis, bah, c'est ma mère, chef. Ma mère a été sur www.pierregagnaire.com. Mail contact à Pierre Gagnaire. Elle écrit un mail dans son français à moitié découpé à la machette.
Trop mignon.
En mode bonjour, chef Pierre, moi, maman, petit Colombien, Juanito, lui, amour de ma vie, lui, fatigué, trop boulot, désolé, lui, retard, vélo cassé. S'il te plaît, pardonne, je t'aime, Jeannette.
Je t'aime. Exceptionnel. Mais c'est trop mignon.
Ouais. Elle envoie ce mail et du coup, Gagnère me pose la question. Je dis, bah, je suis arrivé à la bourse, je lui raconte l'histoire. Et il me dit, écoute, tiens, il me fait un chèque, 300 balles. Et il me dit, il y a Decathlon, avenue Wagram, va t'acheter un vélo et retourne au boulot, quoi. Et en fait, là, je prends une leçon énorme, tu vois, parce que j'apprenais en gastronomie. Et là, je prends une leçon d'humanité exceptionnelle. C'est que lui, il a à ce moment-là, je sais pas, il doit avoir une quinzaine d'étoiles dans le monde entier. Ouais. Il a peut-être 400, 500, 600 employés, je sais pas. Moi, je suis un stagiaire, ça fait 4 mois que je suis là. Il sait même pas comment je m'appelle, quoi, à l'époque, tu vois. Gars, il a l'humanité de te faire un chèque sans savoir ce que je vais devenir. Peut-être que je vais me barrer le lendemain et qu'il ne me verra plus. Et c'est là où je me suis dit, putain, c'est exceptionnel. Si un jour je réussis, j'ai pas envie d'oublier d'où je viens et d'aider les gens autour de moi.
J'ai lu dans une interview que tu avais longtemps cru que la cuisine de haut niveau, c'était que la discipline, la dureté, les gueulantes. Et que finalement... Toi, c'est pas ce que tu reproduis aujourd'hui avec tes équipes.
Je me suis fait bousculer. J'ai du mal à dire ce mot.
Ouais.
Bousculer.
Bon, on te pardonne.
Tu sais, le problème, c'est que j'ai plus trop d'accent. Et donc, quand je fais des fautes comme ça, les gens, ils pensent que je suis un Français teubé et pas un Colombien qui parle plutôt bien la langue, tu vois. je suis baisé la gueule complet tout seul. Alors que si je parlais comme ça et je disais bousculer... Les gens, ils se disaient, bon, bah, laisse tomber, c'est normal. Là, aujourd'hui, je fais des petites fautes. Quand j'écris, c'est sur Instagram, c'est moi qui fais mes montages, qui fais mes légendes, c'est moi qui j'écris tout, quoi. Et des fois, je prends des messages en mode, ça se dit pas l'accent grave ou l'accent circonflexe.
Ah oui, bah oui,
je fais des fautes tout le temps. Ouais. Je me fais corriger là-dessus.
On te pardonne.
Voilà, je devrais retrouver mon petit accent des Colombiens comme ça.
Moi, je trouve ça très mignon.
Mais bref, je me suis fait bousculer quelques fois, je me suis fait rentrer dedans. J'ai quitté la gastronomie et le Michelin et les Toc et Goemio et tout ce truc. J'ai ouvert mon premier resto et je me suis dit plus jamais j'ai envie de vivre ça, quoi. Je trouve que c'est un univers qui est horrible. Je suis pas fait pour ça.
C'est quoi qui est horrible? C'est vraiment
la pression, la quantité de pression que tu infliges aux gens, ouais. les taux horaires, je pense que ça se calme beaucoup parce qu'aujourd'hui il y a les réseaux sociaux et que tu peux plus te permettre de mettre une droite à un gars en cuisine, mais les droites, les cuillères chaudes dans la main, les...
Tu t'es pris des cuillères chaudes dans la main?
Oui, des droites chaudes, oui.
Des droites?
J'ai pris une grosse droite ici en plein plexus, service.
D'un supérieur?
Ouais. Ouais, d'un chef, ouais.
Putain, c'est lunaire.
C'était normal. Enfin, j'ai démissionné, hein. Je me suis jeté sur lui et je l'ai tapé aussi.
Ah oui, d'accord. Ok.
Oui, parce que moi, j'ai... Tu sais, j'ai un énorme respect pour tout le monde, tu vois. Mmh. On travaille ensemble, on est dans le même bateau, je te respecte. Mais si tu me mets la main dessus, ouais, tu me permets aussi de te la mettre, tu vois. Donc, tu peux t'avouer être mon chef ou... Tu me touches pas, quoi.
Ouais,
donc
ouais.
J'ai pris une droite en plein plexus, je me suis jeté sur lui, on nous a séparés et je suis monté directement en ressources humaines pour démissionner. Ils m'ont dit il faut que vous fassiez un préavis et je lui ai dit c'est très simple, si vous voulez avoir de mes nouvelles et que je vous colle un procès au cul et que ça foire vraiment beaucoup de choses chez vous, je fais le préavis, sinon juste laissez-moi partir aujourd'hui. Moi ça me va, j'ai pas envie de faire un scandale, je rentre juste chez moi, je veux juste travailler. En plus j'étais en train de refaire les papiers, c'est un truc un peu complexe, quoi.
C'était vraiment au tout début?
Ouais, ça faisait c'était pas tout début, mais ça faisait quelques années que j'étais là et je renouvelais mon titre de séjour tous les ans, tu vois, c'est galère, t'essayes de te faire discret, quoi. Et bref, ça, j'ai démissionné, je suis parti et après j'ai plus envie de cet univers.
Ouais.
Et donc j'ai essayé de ne plus jamais le reproduire.
Avant d'ouvrir ton premier resto, y a quand même eu l'aventure Top Chef.
Ouais.
On est en 2012. Pourquoi tu t'es inscrit au casting à l'époque?
Alors, c'est pas moi, c'est une... C'est des copains, une ex et des amis.
Décidément.
Toujours une histoire de fesses avec celui-là.
Deuxième ex de cette vidéo.
La première, c'est pas une ex, c'est un...
Oui, bah bon, ça fait partie quand même du body count.
C'est horrible, ça. On regardait Top Chef à l'époque, il y en a avec des potes, et moi je faisais à manger tout le temps. Je suis un gars qui... Je suis passionné de mon métier, et je suis pas le type de cuisinier qui ne cuisine pas chez lui. J'adore le fait de rentrer chez moi et cuisiner chez moi. J'ai la chance d'avoir plusieurs restos, donc j'ai pas de routine, tu vois. Donc ouais. Des fois je vais le midi, je suis en train de faire un testing de cartes, et le soir je vais être au service. Mais si je rentre chez moi à 22h30 et que j'ai des potes, je vais cuisiner, j'adore ça. Je suis en train de faire à bouffer un dimanche, on se fait un... un brunch en regardant Replay Top Chef ou je sais plus pourquoi, je sais pas comment arrive le truc de cap ou pas cap, tu fais Top Chef quoi. Et je dis en vrai, enfin moi 22 ans, je me croyais plus fort que tout, je dis mais moi je suis cap de tout quoi. Ils écrivent une lettre de motivation, ils vont sur le site, ils m'inscrivent, ils envoient tout et moi je me suis dit mais jamais ça va marcher. Et une semaine plus tard, le téléphone il sonne et on m'appelle pour passer les tests. Donc j'y vais, je me dis j'ai rien à perdre, je suis en train de rentrer au Bristol à ce moment-là et je dis je suis pris par Top Chef, il va me falloir ce temps-là pour le faire. Ils disent aucun problème, on se débrouille. Et je rentre dans cette aventure absolument incroyable en me disant que je vais tout le défoncer, que je suis le meilleur cuisinier du monde et que je vais éclater et démolir tous ceux que je vais croiser.
Et il y a une sombre histoire de siphon qui explose.
Et je me fais défoncer la gueule.
Quatre émissions.
Quatre émissions plus tard, on est 14, je finis 10e, quoi. Ouais. Je me fais éclater au sol. C'est une super expérience parce que ça m'apprend j'ai une leçon d'humilité énorme. Ça me remet un peu la tête sur les épaules. Tu te crois un petit peu, t'arrives comme un cador et ça te montre que t'as plein de choses à apprendre.
Le gagnant, tu restes en contact avec lui ?
On a...
Donc c'est Jean Humbert qui a gagné cette saison.
On a eu moins de contact avec Jean. Mais pas par les histoires qu'il a aujourd'hui. On a eu moins de contact parce que j'ai bossé pour lui. J'ai tenu son restaurant. J'étais chef de la Cajou pendant un an et demi. C'était une période où il a décidé d'aller faire le tour du monde et c'était génial parce que moi je voulais ouvrir mon restaurant. Là j'étais chef de cuisine et ça m'a permis de comprendre la gestion d'un resto, de faire toutes les erreurs possibles, inimaginables, mais sans forcément payer de ma poche les conneries que je faisais quoi.
Okay.
Et il m'avait fait confiance, il est parti faire son tour du monde. Il avait son émission avec Norbert et Jean, donc vraiment j'ai passé un an et demi tout seul à gérer le resto, c'était très cool. Quand j'ai quitté le resto, je pense qu'il a pas apprécié. J'ai ouvert mon resto, j'ai essayé de lui proposer de passer plusieurs fois, il est jamais venu. Et donc on a pris une distance, il y a 15 ans quoi.
Bon allez, on ferme la parenthèse.
La parenthèse inattendue.
En tout cas. Bon, 4 émissions à Top Chef, mais malgré tout, le goût de la télé. Et la télé, ouais. T'en as quand même fait pas mal par la suite. T'as fait plusieurs apparitions dans pas mal d'émissions de télé, notamment Quotidien.
Ouais.
Qu'est-ce qui te plaît en fait dans cet univers ?
Je trouve qu'il y a une part d'inattendu que j'adore. Tu vois,
en télé, une part d'inattendu ?
Ouais. Ah ouais ? Ouais, ouais. Ouais, y a des choses que tu ne maîtrises pas. Tu vois, il y a des choses que... Tu vois, là, tu viens de me parler de Jean Humbert. C'est un moment qui est un peu compliqué parce que c'est un thème qui peut générer certaines tensions. Je ne m'attends pas. Et tout cette... il faut que je te réponde quelque chose et que je... C'est une part d'inattendu pour moi.
Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire.
Quand j'arrive et que je faisais Quotidien, je préparais une recette que peut-être il y a quelqu'un qui est invité qui ne va pas aimer. Et tu dois rebondir et sortir une histoire pour que la séquence, elle puisse être bien tournée. À un moment, tu es en train de tourner en... Ça t'arrive, tu vois, quand tu vas dans les restos, quand tu fais tes trucs Instagram.
Ouais, faut t'adapter, en fait.
Le son, il y a un truc, c'est parti en couille, ça n'a pas marché. Ou le chef, il est à la bourre. Il y a plein d'aléas quand tu tournes que j'aime bien, tu vois, qui mettent une espèce de piment et qui te laissent une part d'instinct et d'instant que tu peux pas prévoir. Et j'adore ça. Je trouve qu'en cuisine, à un moment, tu sais, quand tu tournes, quand tu fais tes services tous les jours avec les mêmes plats, avec les mêmes recettes, avec le sel au même endroit, le poivre au même endroit, il y a une mécanisation.
Routine.
Il y a une mécanisation, une routine qui s'implante que je déteste. Tu vois, donc la télé m'a toujours permis de sortir de ça. Quand j'ai fait avec Stéphane Bern Comment ça va bien, c'était mes premiers pas sur la télé, je trouvais ça génial. J'avais fait à l'époque Dans la peau d'un chef avec Michelac.
Ouais.
Et oui, enfin, Quotidien, c'était énorme. Quotidien, c'est fat. Tu dois parler de l'actualité, donc tu savais 3 jours avant ou même le jour J, il fallait changer la recette parce qu'on parlait d'actualité. Il y avait Macron qui disait on va pas faire des moussaka à la lasagne, à la feta avec du parmesan. Et donc du coup, il a sorti un truc comme ça, et ben on va faire des moussaka à la lasagne, au parmesan, à la feta. Quoi. Donc, c'était toujours, tu vois, ce truc d'être dans le qui-vive. J'ai toujours kiffé.
Ces expériences télé, ça... est-ce que déjà ça t'a changé et... est-ce que ça a joué un rôle dans ta réussite ?
Ça m'a changé, oui. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai une, J'ai beaucoup moins d'appréhension sur les moments de discussion, quand je prends la parole, que ça soit avec une caméra ou pas. Ça m'a permis de...
Prendre de l'assurance.
Ouais, je pense que tu prends de l'assurance et en plus, tu as une façon peut-être plus cadrée, plus structurée de dire les choses. Avant, tu parlais et des fois, tu titubais et tu fais un... 1000 fois, quoi. Aujourd'hui, ça m'arrive encore. Mais la façon de créer, de rédiger, peut-être de dire les choses est un peu plus structurée.
Oui, je comprends.
Et après, dans ma vie professionnelle, c'est énorme.
Ouais. C'est énorme. La médiatisation.
C'est énorme pour plusieurs choses. La première, c'est que déjà, ça remplit tes restos. Ouais. La deuxième, c'est qu'il y a des marques qui viennent te voir, qui veulent travailler avec toi. Donc, ça rapporte aussi un peu de beurre dans les épinards. C'est des moyens économiques supplémentaires. C'est dans les moments de difficulté, un Covid, une guerre, une grève, bah, ça te permet de générer des flux ou de créer des moyens de vente différents. Pendant le Covid, je prends l'exemple du Covid, ça nous a permis de faire du takeaway. Et la seule moyen de communication, les journalistes et les Instagrammeurs et les food bloggers n'étaient pas disponibles. Donc la seule moyen de parler de ça, c'était les réseaux sociaux, c'était les médias. Donc ça m'a... Ouais, c'est une façon de rebondir hyper vite. Et c'est un service après-vente incroyable. Parce que quand t'as... Aujourd'hui, j'ai plusieurs restos. Je peux pas être dans tous les restos. Mm-hmm. Mais... Tout le monde me met un message sur Instagram comme ça va pas, ou quand ça va, ou quand le serveur a fait la gueule, ou quand je me suis rendu compte qu'on me volait dans un resto grâce aux réseaux sociaux, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit votre serveur fait payer tous les tables en cash ce soir.
C'est quoi cette histoire?
Et là, je dis, mais comment ça, il fait payer tous les gens en cash? Nous, on déteste le cash parce que ça ne nous permet pas de contrôler. Et en fait, le gars, à partir de 23h, 23h30, il disait à toutes les tables que le TPE ne marchait pas, il l'encaissait en espèces. Et c'était des trucs qu'il enlevait, qu'il ne tapait même pas. Tu vois, si tu voulais un troisième verre à la fin de ton repas, et ben il dit, mon TPE ne marche pas, il faut juste que je vous encaisse. Et il nous a tapé dans la caisse comme ça. Donc moi, les réseaux sociaux m'ont permis de me rendre compte de ça.
Est-ce que tu retournes un peu de temps en temps faire des services dans tes restos?
Oui, ce soir je suis à Arbela. Okay. Ce soir je suis à Babi, demain je suis à Arbela. Voilà. Okay. Vendredi je suis à Bazurto.
Voilà. Est-ce que ça t'arrive de revenir dans ton premier resto?
Plein de chats, putain, ça fait longtemps que j'ai pas été. Désolé. Plancha, j'ai Sergio en cuisine qui est un mec incroyable et qui pilote vraiment de main de maître. Et j'avais une directrice qui était vraiment superbe. Et ça fait un petit... Quand je dis longtemps, ça fait un mois, tu vois, que je suis pas passé.
Ok. Ah.
Ouais, c'est beaucoup hein, pour moi, mais ça fait un mois. Il faut que je repasse. Boulogne, c'est un peu loin. Et je suis... C'est timé, c'est horrible. Tu regardes mon planning.
Ouais, j'imagine.
C'est... Attends, je vais te montrer.
Ah...
Vraiment, pour que tu vois ce que ça ressemble, mes plannings, tu vois. Ça, c'est mes plannings.
C'est coloré, hein.
Ça, c'est les... Wow. C'est un enfer.
Ouais.
Et en gros...
Même le week-end, apparemment, là.
Ouais, même les week-ends, je bosse. Enfin, j'ai le train de Barbizon, qui est un... Il y a aussi l'anniversaire de ma meuf, mais sinon, le reste, c'est...
C'est bientôt.
Ouais, mais j'ai des events tout le temps, quoi. J'ai des trucs... Le scooter, tu vois, quand tu fais 45 minutes aller, 45 minutes de retour en une journée, aujourd'hui, moi, ça me...
Ça t'épuise.
C'est dur, mais c'est hyper dur à caler aussi.
Ah oui.
Ouais. Dans les journées. Mmh. Donc, plancha, des fois, je me dis, putain, heureusement que ça tourne bien et que c'est le QE de confiance et que... J'ai pas trop d'histoire, mais il faudrait que je revienne.
Écoute, on va quand même vérifier ensemble si tu maîtrises un peu la carte de ton premier resto, ton bébé. Mmh. Puisque à la carte de ce resto, il y a un trio de fromages.
Ouais.
On va voir si tu connais les fromages de ce trio de fromages. C'est le moment de tester les connaissances de Juan.
On met l'invité dans la merde. Et oh, c'est pas très gentil de me biper là.
Bon, Juan, je te propose de mettre ce masque.
Yes.
Et je vais déclocher le trio de fromages.
Putain, tu sais que j'étais au téléphone avec Sergio, du coup, en venant ici.
Ouais, donc le chef exé de
Le chef
Plancha.
Exé de Plancha. Et le mec, il me dit, ah oui, mais tu as un podcast à Boulogne, non? Et je fais, mais comment il sait? Et je me suis dit, bon, peut-être que Lorraine, enfin mon bras droit ou quelqu'un lui a dit que j'étais dans le coin. Et bah c'est toi.
Pourtant on leur avait dit surtout, putain, vous parlez surtout pas de ça à Juan. On veut garder la surprise. Combien
Bravo.
Coûte ce trio de fromage?
14
euros le trio de fromage.
Pas cher.
Hop là.
C'est donné.
Arrête de faire toi là-bas.
Donc, on a trois fromages sur ce plateau de fromage. C'est des beaux morceaux. Je te propose donc de goûter. On n'a pas de cuillère, non? On a juste des couteaux, quoi.
Okay. Je vais y aller avec les doigts.
Ah ouais, carrément.
Non?
Eh ben écoute, regarde, hop, attends, non, t'inquiète pas, ne touche pas, premier fromage ici.
Ah oui, c'est un peu cool.
C'est ce que tu sers dans ton resto, hein, je te rappelle. Hein.
Attends, mais c'est quoi ça?
Ça c'est la fourchette, enfin c'est le couteau.
Là t'as triché.
Bah non.
Si.
Quoi?
Parce que tu commences par un fromage qui est très fort.
Ah bah oui.
Bah oui.
Ah ouais.
Mais normalement les fromages se commencent à l'envers.
Oui bah écoute, t'es un grand chef là, normalement ouais. Tu peux...
T'as vu, j'ai même pas goûté, je l'ai déjà.
C'est quoi?
Bah là, l'odeur, il y est dessus?
Ouais, 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 c'est bon. Attention, c'est un couteau. Hein.
Non.
Quel type de fromage déjà?
Moi, c'est un fromage à pâte. C'est un fromage bleu pour moi.
Ouais.
C'est un fromage qui est. Ouais. Et normalement, on le met à la fin parce que c'est les fromages qui sont le plus puissants.
On est d'accord.
Il est assez salin.
Ouais.
Il est. C'est marrant, il picote. Donc alors, on fait des fromages bleus avec. Souvent avec la brebis ou. Et ça arrive qu'on fasse avec le lait de vache, mais souvent ils sont un peu plus doux. Là, il est assez puissant. Putain, il est bon. Hein. Je comprends pourquoi 14 euros, c'est pas assez cher.
Bon, alors, c'est effectivement, t'as raison, c'est une pâte persillée, c'est un bleu, et il y a le mot bleu dans le nom du fromage.
C'est un bleu d'Écosse.
Ouais, exactement. Bravo.
Magnifique.
Bravo. Écoute, hop, on va jeter ce couteau. Deuxième fromage, ouais. Là, honnêtement, ça va être très facile. Tiens, je te le mets dans la main.
Mais tu m'as fait démarrer par le bleu, t'es pas
ouais, mais
sympa.
Là, du coup, on repart sur quelque chose de beaucoup plus doux. Donc déjà, t'as trouvé le premier fromage du trio de fromage. Ça, c'est le deuxième fromage du trio de fromage. Attends, t'es côté croûte, là. Là,
putain, le mec, qui me fait lécher les croûtes et tout.
Voilà, là, t'es côté...
Si je chope une chikungunya, c'est de ta faute.
Là, c'est bon.
Mais là, on est sur un grand classique pour moi.
Ouais.
Assez jeune.
Oui, exactement.
Normalement, je l'aime un peu plus vieilli.
Il a 10 mois, celui-là.
Pour moi, c'est un comté.
Ouais. Tiens, le dernier, hop, je te le mets dans les mains. T'en as pour l'instant 2 sur 3, ce qui est pas mal. Enfin, ce qui est même parfait.
Ouh. Bon. Maintenant, on est sur un chèvre. Un petit chèvre un peu frais. Pour moi, c'est un... C'est les petits rouleaux de chèvre frais, dans le style les crémeux. C'est très bon, ça. C'est... Je vais le passer à 18, le fromage. c'est bien un chèvre frais ou pas?
Bah, c'est... Tu veux que je te donne la réponse?
Non. Ça veut dire que je ne l'ai pas?
Bah si, enfin, on est sur un chèvre, oui.
Ah oui, c'est un chèvre.
Ouais.
C'est pas une bûche?
C'est pas une bûche. C'est des petits palets.
Très bon. Du coup, palet de chèvre?
Ouais.
Il faut que tu veux que je te trouve le nom?
Ah ouais, c'est connu. Tu as un petit indice?
Vas-y.
Ça commence par un K, ça finit par un B-coup. Petit indice.
Très fort. Ça qu'un B-coup.
Oui.
Non mais franchement, suspense, un peu le...
Vas-y, tiens, tu peux l'enlever ton masque. Bravo.
J'ai laissé le suspense. Mais normalement, on ne dresse pas dans ses assiettes.
Non, ça c'est... dis tout de suite qu'on a de la vaisselle de merde.
Non, parce que là, 14 balles, je suis d'accord, c'est un peu limite, mais normalement, on dresse plus joli.
Sympa pour la prod, qui a mis tout son cœur dans ce dressage. Non, mais ils sont très bons. Hein.
Il est bon?
Ouais, franchement, très très bon. Combien de restos tu m'as dit en tout, aujourd'hui? Combien de...
On a 11 fonds de commerce.
De marques différentes de restaurants.
On a 11 fonds de commerce qui nous appartiennent. Et on a des signatures de cartes, c'est-à-dire qu'on fait du consulting. Souvent dans le consulting, soit on pilote tout le resto, soit des fois on va juste mettre les équipes en cuisine.
C'est le groupe que tu gères, donc que tu as, que, donc t'es quoi, t'es cofondateur, t'es actionnaire à 50-50?
On est cofondateur avec avec PJ et Greg, on a 33 chacun.
Ok, d'accord.
Et on est associés, on a créé le groupe, moi j'avais mes restos, j'en avais 3. Eux, ils avaient Calios et ils avaient Pouliche et Café de Luce avec Amandine.
Ouais.
Et on a décidé de fusionner tout pour mettre tous les gens qui bossaient dans le bureau au service de tous les restos.
Dans ce rôle de chef d'entreprise, il y a des choses que tu n'aimes pas?
Quand tu gères autant de restos et que tu gères autant de gens, tu finis. Souvent, j'ai un truc qui est assez imagé et qui fonctionne assez bien. C'est que tu n'es plus cuisinier, tu deviens pompier. Tu es en train d'éteindre des feux partout.
je donne l'exemple de Plancha, là, il y a eu les tempêtes, il y a la façade qui s'est décrochée parce qu'il y a eu une pluie il y a 3 jours, la wifi elle a sauté, donc ça fait 4 jours qu'on fait le service à la main sans forcément avoir connexion à tout, il y a eu un gars qui devait venir et qui n'est pas venu, enfin, t'es affronté à tellement de ces toutes petites merdes, ouais, mais qui te rendent fou. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notre taf à 65-70% devient de la gestion humaine, quoi. T'es psy, t'es papa et maman, c'est pas simple tous les jours.
Ouais.
Donc, disons que ça, c'est ce qu'il y a de plus dur. Après, j'ai pas envie de me plaindre parce que je l'ai voulu, tu vois, et j'adore le fait d'aujourd'hui, justement, pour avoir une routine, avoir un seul resto dans lequel j'y vais tous les matins, j'allume, j'éteins. J'aime bien le fait que ça soit une nouvelle aventure chaque jour. Mais c'est un univers qui est waouh, c'est une montagne russe d'émotions. Faut être bien accroché.
Évidemment, avec la notoriété, il y a aussi beaucoup plus de critiques qui te sont envoyées au visage. Est-ce qu'il y en a qui te touchent aujourd'hui ou comment tu gères un peu ce côté-là?
La majorité des critiques qui sont écrites de façon sensée et qui ont une explication derrière et qui sont là pour être plus bienveillantes, je les adore, je les prends et je les accepte et j'essaye de nous améliorer.
Ouais.
Après, il y a des critiques, des fois, bon, tu les lis et tu te dis, je pense que Gisèle a trop bu et que... elle n'était pas bien avec Francis et puis ils se sont engueulés dessus et on est aussi une façon, je trouve, de peut-être de se défouler pour certains gens. Ouais. Tu vois, tu vis un peu avec les gens, d'une certaine façon. Les gens, ils te voient sur les réseaux tout le temps. Ils adorent tes recettes, ils le refont. Ils achètent tes livres et un jour, ils se disent « J'ai trop envie de faire le resto, ce resto. » Et du coup, Francis amène Gisèle à ce resto. avec l'envie de lui faire vivre un moment qui est incroyable. Et nous aussi, on a envie que Gisèle et Francis vivent un moment incroyable. Mais on n'était pas là. Le serveur, il n'est pas venu. La façade, elle a volé avec la tempête. Et le wifi a sauté. Et ils ont attendu 45 minutes de leur plat. Donc leur expérience, elle est foutue.
Ouais.
Et tu reçois peut-être oui, on était en retard, oui. Mais des fois, il y a une haine sur certains messages qui est peut-être un peu découplé par rapport à beaucoup de choses que les gens peuvent avoir dans leur vie. Donc, en vrai, je les lis. Je prends ce qui est bon à prendre, mais je ne me tords pas les boyaux.
Tu dois te faire draguer aussi pas mal, non?
Ça, pas autant que ça.
Ah ouais?
Je pense que quand tu dégages quelque chose de... Tu vois, quand j'étais célibataire, il y avait beaucoup de messages et de dragues, mais je trouve que comme tu agis et la façon comme tu es, ce que tu dégages, influence énormément aussi comme les gens sont avec toi. Et je sais pas, moi je suis avec quelqu'un depuis 3 ans et ça se passe trop bien. Et je pense que ce que je dégage fait que, bah, pas tant que ça. Tu vois, on te fait des commentaires, il y a peut-être Gisèle, je prends Gisèle parce que voilà, je connais pas de Gisèle. Il y a peut-être Gisèle qui va te mettre un petit message plutôt mignon, mais c'est pas... C'est rare une drague comme ça, assumée, très droit, parce que je pense que les gens se disent, il est maqué, il y a peut-être...
Ouais, ouais, ils se mettent un...
Ouais, ouais, je comprends, ouais, ils se bloquent. Et toi, tu vas faire droguer, draguer vénère aussi?
Non, moi ça va, non, pas trop. pas assez.
Vous avez compris? À vos DM, direct. Hein. Il adore les photos des pieds aussi.
Ah non. C'est vrai qu'il y a 2-3 personnes un peu, mais tu dois en avoir aussi dans tes DM, un peu, comment dire,
un peu perché.
Un peu perché, ouais, ouais, qui font des fixettes sur des trucs très particuliers. Ouais, donc ça, oui, j'en
oui,
ai
oui,
aussi.
Oui, il y a tout le temps des perchés, ouais.
On parlait de notoriété tout à l'heure. Ouais. T'as été aussi très médiatisé à travers ton couple d'il y a quelques années.
Ouais.
Est-ce que ça a changé ta façon de donner de ta personne aux médias et de t'exposer?
Dans ma vie privée, j'ai toujours partagé un peu ce qui était une partie de mon couple. J'ai toujours gardé une partie privée qui est... Tu vois, quand je rentre chez moi, les téléphones, ils sont dans un coin et c'est très rare que j'y touche. Il y a une espèce de bulle un peu sacrée que j'aime bien garder. J'aime pas le fait de rentrer des gens dans une limite de mon intimité que j'ai établie. qui est beaucoup plus loin que celle des communs des mortels, parce qu'il y a plein de choses que qu'on partage et que j'ai partagé avec mon ex. Mais j'ai toujours eu l'impression, pareil dans cette situation, que ça a été c'était bienveillant. Tu vois, j'ai jamais eu de
Ça t'a jamais gêné, ça ?
Non, j'ai jamais eu de sensation d'intrusion. Alors, on a eu au tout début de la relation, tu sais, t'as des paparazzis et des trucs comme ça. Et ça, c'est un peu bizarre. Mais en vrai, ça a jamais été intrusif. Je pense que quand tu le fais, je sais pas, c'est peut-être la simplicité qui rend ça accessible, sans trop se prendre la tête.
Tu l'as jamais mal vécu, en fait ?
Non, non, non. Tu vois, le moment... Non, en vrai, je pense qu'on aurait été connus ou pas connus. Les moments durs et les moments pas durs auraient été les mêmes. Mmh. C'est pas le fait qu'il y ait une visibilité ou qu'il y ait une médiatisation qui ont rendu les qui rend ma relation facile ou pas facile. Donc en vrai non, pas tant que ça. J'ai quasiment toujours décidé de partager ma relation. Donc en vrai non, pas tant que ça.
Alors là, il va se passer quelque chose de révolution dans ta vie, en
quelque sorte. Après les fromages.
Plus révolutionnaire que les fromages, c'est l'arrivée d'un enfant.
Ouais.
Tu vas être papa ? C'est pour quand ?
C'est pour février. Tu vois, ça, je me suis posé la question très longtemps, est-ce que j'avais envie de...
D'en parler.
Il s'avère qu'on avait un voyage magnifique qu'on a fait en Égypte, et j'ai fait des photos absolument incroyables et des vidéos absolument incroyables de ma femme, et elle me dit à un moment, elle est architecte.
Elle s'appelle comment ?
Cassandre.
Ouais.
Elle est architecte et elle construit des énormes maisons et elle fait des choses absolument incroyables dont je suis absolument fan. Je ne comprends pas comment c'est possible encore. Et on avait prévu ce voyage en Égypte parce qu'il y avait toutes ces notions architecturales, art, qui étaient, qui étaient inclus. Et elle avait, y avait plein de photos qu'elle voulait partager à un moment sur ses réseaux, et on s'est posé la question, donc on a décidé d'annoncer le fait qu'on allait avoir un enfant pour qu'elle puisse partager ses photos de ce voyage. Maintenant, j'ai pas, tu vois, je trouve que le fait d'avoir un enfant et c'est tellement intime, tu vois, c'est tellement puissant, et surtout lui, on lui a jamais demandé le choix, quoi, tu vois, donc j'ai envie de lui laisser un peu cette décision, donc j'ai pas trop envie de partager ce moment qui va être une vraie intimité pour moi. Et je suis aussi à l'aise à partager des moments peut-être de ma vie, de mon quotidien, de mes vacances, peut-être aussi un peu de mon couple. C'est parce que je garde toujours un endroit sacré pour moi. Et je pense que mon enfant, c'est cet endroit sacré. Je suis plus excité de l'idée d'avoir un enfant. Ça m'anime énormément, tu vois. Je trouve ça incroyable. Je trouve que c'est quelque chose d'unique. Je suis en énorme admiration de ma femme, de me rendre compte à quel point le corps d'une personne est capable de construire cette machine, cette mécanique incroyable. Tu regardes la colonne vertébrale et tu te dis, mais comment c'est possible qu'un être humain soit capable de créer ça, quoi ? Quand tu vois que l'équivalent à faire un enfant, c'est comme si nous, on courait pendant 9 mois 42 marathons. Moi, je cours un marathon et pendant 6 mois, je suis en PLS, les gars. Ma femme, elle est en train de courir 42 marathons pendant 9 mois. Tu vois, l'énergie consommée est monstrueuse. Donc non, je suis plus en admiration. Je suis en adoration, en admiration de cet événement incroyable qui est en train de m'arriver.
Quel papa tu veux être ?
Je veux pas être un papa qui a peur. Je veux être un papa qui incite plus à l'aventure, qui incite plus à la découverte, qui fera tomber certaines barrières, qui sera pour la communication, qui sera le papa à qui t'as pas peur de lui en parler de tout, quoi. Peu importe ce que c'est, peu importe. J'ai envie d'être un soutien, une épaule, une oreille, tout, quoi. J'ai envie d'être tout
par
ça.
Par contre, on a vu ton emploi du temps là tout à l'heure. Comment tu appréhendes le fait de gérer ta vie de nouveau papa en même temps que ta vie de chef d'entreprise ?
Comme avec mon boulot, quand j'ai dû me mettre pleine balle pour que ça fonctionne. Aujourd'hui, moi, mon but, c'est que ça fonctionne dans ma famille avec mon enfant.
Donc je vais mettre
en place tout ce qui est nécessaire pour que mon enfant ne soit pas élevé par quelqu'un d'autre, mais soit élevé par moi-même. Donc ouais, j'ai mis beaucoup de choses en place pour ça.
Juan, il est l'heure de passer à la sauce piquante.
Le gars, il dit un truc, et l'invité, il doit répondre un truc.
La sauce piquante, c'est très simple. Des questions courtes, des réponses courtes.
Ok.
Première question, est-ce que tu te trouves beau?
Oui. Attends, je me trouve beau maintenant, mais je me trouvais dégueulasse avant.
Ah.
Ouais.
Tu t'améliores avec le temps, avec l'argent?
Ah non, j'ai beaucoup souffert. J'étais un peu
rond
jusqu'à mes 15 ans et j'ai énormément souffert. Et on m'appelait la grosse à l'école. Pas le gros, hein, la grosse. Et j'ai vécu des moments très durs.
Ça a été
En vrai, j'ai mis du temps. J'ai fait beaucoup de sport.
T'étais harcelé à l'école?
Ouais. On m'a offert un soutien-gorge parce que j'avais des seins à l'école. Enfin non, c'était vénère.
Waouh.
Ouais. Et j'ai réussi à sortir de ça grâce au sport et à 2-3 ex.
C'est-à-dire?
Non, mais quand tu comprends que tu plais, à un moment, tu dis ok, ça passe, quoi. Enfin, la machine, elle fonctionne.
D'accord, ouais.
Mais pour l'ego, au début, quand tu prends si cher, moi j'avais peur de parler devant deux personnes, quoi. J'avais la panique.
Ah, tu reviens de loin, en fait.
Ah, ouais, j'ai fait un grand chemin, ouais.
Ouais.
Et tu me vois aujourd'hui comme ça. Mais à mes 16 ans, j'étais incapable d'aller parler à une fille. Ou de même, enfin, si on était quatre et je voulais donner mon avis, je devenais rouge tomate, quoi.
Ouais, je comprends.
Donc il y a eu un vrai chemin de fait.
Mais aujourd'hui, tu te trouves beau?
Aujourd'hui, je me trouve pas beau, mais pas mal, quoi.
Ouais.
Un 8, 7, 8, quoi.
Sur
10.
Ah oui, ok.
Non, ça va.
Qu'est-ce que tu détestes en France?
Les râleurs.
Ah, tu trouves qu'on est un peuple de râleurs?
Donc je déteste la France.
Tu trouves qu'on est un peuple de râleurs?
Ouais, oui. En France, il y a... Tu sais, il y a une phrase que vous dites. Il y a une phrase que vous dites tout le temps, que si tu la traduis dans d'autres langues... Moi, je parle portugais, français, anglais, espagnol. Donc, du coup, des fois, quand il y a des phrases que j'essaye de capter, de traduire, ils sont difficiles à traduire parce qu'il n'y a pas trop de...
J'ai peur.
D'égal.
C'est quoi?
C'est un truc à la con, hein, mais c'est pas mal. Tu vois, le c'est pas mal. En France, on n'a pas envie
en
de dire...
En anglais, c'est genre not bad?
Oui, mais on ne l'utilise pas tout le temps, tu vois.
Ouais, okay.
Mais c'est pas mal, en France, on l'utilise tout le temps. En espagnol, quand j'essaye de dire no está mal, quand tu dis no está mal, c'est vraiment proche de... C'est vraiment
d'accord.
De la merde, quoi.
Ouais, je vois.
Le pas mal, des fois... On fait un truc vraiment bien, tchatcheur et tout, il y a des détails à régler. C'est pas mal.
Ouais. On n'est pas assez enthousiaste.
Ouais. Il y a un truc dans lequel... Mais après, je comprends, vous avez la Tour Eiffel, Paris, Montmartre, les meufs, toutes elles sont magnifiques, capitale de la gastronomie, plus de 600 fromages différents.
On est blasé,
vous
quoi.
Ouais, il y a un truc de... On a tellement tout que... On s'en balèque, on s'en fout un peu. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a, vraiment une... Je sais pas, je prends la Colombie. Tu vois, nous, on n'a pas grand-chose. Vous nous connaissez par les narcotrafiquants.
Ouais.
On était un pays sous développement. Ouais. Les drogues, les...
Shakira.
Mais on est le peu qu'on a,
quand même.
Mon gars. Ouais. On est tellement fiers.
Ah ouais.
Et nous, il y a une phrase qui est très belle d'une chanson qui s'appelle Latino America. Calle 13, qui dit « On est un peuple à qui on a coupé les jambes, mais nous n'avons jamais cessé de marcher. » C'est cette mentalité que j'adore, tu vois, c'est pas grave, on est dans la merde, mais on avance. C'est le verre à moitié plein et pas à moitié vide. En France, il y a une espèce de critique constante de tout. En vrai, je pense que c'est ce qui fait aussi de vous, je dis vous parce que je suis pas français,
j'ai pas les papiers. J'allais te poser la question, je te montre. T'as pas la nationalité?
Non, je l'ai fait 4 fois, on me l'a refusé 4 fois déjà. Donc si quelqu'un nous regarde dans le bureau de nationalité, s'il vous plaît, la prochaine
c'est
fois.
Incroyable.
Naturalisation, merci beaucoup.
On te justifie le refus?
Souvent, c'est lié à un papier, mais
okay.
c'est compliqué. Ouais. C'est juste un papier.
Mais tu désespères pas, tu
Là, je remets le dossier là.
Ok.
Voilà. Bon. Donc c'est pour ça.
Ça sera peut-être la bonne.
C'est peut-être la bonne. Si vous nous voyez,
ouais.
Madame, dans le bureau. et non, en vrai, c'est grâce à peut-être à cet esprit critique que vous avez les tableaux que vous avez, l'architecture que vous avez, que vous avez les villes, que vous avez la richesse. Mais à un moment, c'est aussi génial de se rendre compte de ce qu'on a, tu vois, d'être heureux.
Tu prêches un convaincu, là, je suis d'accord.
C'est juste ça.
Ouais, je suis d'accord.
Mais pas tous les Français sont...
Question suivante.
Ouais.
Pardon, je rappelle qu'il fallait des réponses courtes. C'est le but de cette séquence. Question suivante, tu vas voir, la réponse va être très courte. T'es millionnaire ?
Non. Attends, millionnaire, mais c'est compliqué. Millionnaire dans les actifs, dans les si tu comptes un appart, si tu comptes les dettes.
Alors, est-ce que ton patrimoine...
Moi, je suis très endetté, donc c'est là... Demain, je perds tout, je pars une main devant, une main derrière.
Ah ouais ?
Bah oui. Bah oui.
Bah, t'es pas propriétaire de... T'as quand même des fonds de commerce, etc. Enfin,
oui, c'est quoi la valeur d'un fonds de commerce si demain tout part en cacahuète, il y a un énième Covid, il y a une guerre qui s'étend, il y a... Aujourd'hui, dans un compte en banque, en capital, il n'y a pas grand-chose. En trésorerie, il n'y a pas grand-chose.
Sur ton compte en banque, il n'y a rien, quoi.
Non, moi, j'ai fait le choix d'investir toujours tout ce que j'ai gagné.
Okay.
Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux dire que j'ai 19 restos et que ça cartonne et que machin. Mais moi, demain, il y a un pet, je peux tout perdre.
Mais si demain, tu revends tout, là, t'es millionnaire.
Pas vraiment non plus, parce que pour avoir des restos, quand t'achètes un resto, tu fais un prêt pour dire un million, tu fais un prêt d'un million,
ouais.
Mais pour avoir un million, il faut que tu ramènes 300 000.
Ouais.
Donc, tout ce que j'avais gagné, les 300 000, je les ai mis, et j'ai 700 000 de dettes en face. Donc, si demain, je vends le resto 500 000,
Je ne
suis pas forcément gagnant. Donc, les comptes sont pas si simples.
Tu préfères la cuisine française ou colombienne ?
Française. La technique de cuisine française... Oh putain, t'es fou.
Ah, c'est dur, hein. Je te rappelle que tu es en attente de papier français, donc c'est le moment de tout donner.
Française.
C'est qui le plus grand chef français aujourd'hui ?
Dans mon cœur, ça sera toujours Pierre Gagnaire.
Ouais, je me doutais.
Mais j'ai une énorme admiration pour Yannick Aleno.
Est-ce que tu as déjà pris de la drogue ?
J'ai fumé un pétard en Amsterdam. Quand j'avais 22 ans, je crois.
Ouais.
Et j'ai détesté ça.
Mm-hmm.
Parce que j'étais tout mou. Et qu'il y avait un verre d'eau qui était là. Et j'avais soif. Et j'arrivais pas à le choper là. Et j'étais comme ça. Et j'avais soif. Et j'arrivais pas à bouger. Et ça a duré. Je sais pas, c'était éternel.
Ouais.
J'ai l'impression que ça a duré des jours. Donc je suis pas très fan de ça. J'ai testé les champignons hallucinogènes. Ça, j'ai trouvé ça très cool. C'est un peu long, faites gaffe. Hein. Ne reproduisez pas ça à la maison.
Non, évidemment, on déconseille fortement. D'ailleurs, c'est interdit.
C'est interdit, d'ailleurs.
D'ailleurs. On déconseille, c'est qu'on dit qu'il ne faut pas le faire.
D'ailleurs. Allez voir la vidéo qu'il a fait où il a testé les champignons hallucinogènes. Et en vrai, la drogue a fait énormément de mal à mon pays. Souvent, quand on dit qu'on est colombien, on dit tout de suite Pablo Escobar, dès que tu as de la farine sur le plan de travail, on te fait une vanne. La cocaïne a fait énormément de mal à mon pays. Et j'ai toujours détesté ça, mais toujours. Donc, ce n'est pas un truc qui m'a attiré. Mais c'est les champignons, c'était très drôle.
Est-ce que tu as déjà fait un service bourré ?
Ah oui, plein.
Ah.
Un paquet.
Ok, d'accord.
Ouais, pour le coup... Pour le coup, un paquet.
C'est quoi l'alcool le plus connu de Colombie ?
T'as plusieurs choses, parce que si je te parle d'un truc vraiment enraciné, traditionnel, typique, on parlerait de biche, qui est un alcool à base de canne.
Ouais.
C'est un peu la cachaça de Colombie.
Ouais.
Mais on est des très grands producteurs de rhum.
Mm-hmm.
Très, très bon. Il y a des rhums exceptionnels chez nous. Mais en vrai, si on doit parler... Et aguardiente, qui est de l'eau anisée, c'est de l'eau de vie anisée, et c'est absolument dégueulasse. Mais on le boit, je sais pas pourquoi, on boit ça en shot pour se mettre des énormes torgnoles. On est trop content, mais l'essence même de l'aguardiente glacée comme ça, c'est... Et on le boit en tétrapack, des boîtes de lait. Tu sais, les cartons, les cartons de lait, tu vois ce que c'est, les cartons tétrapack. Ça, on le met au frigo, on part quand on était gamin, et tu ouvres un petit trou comme ça, et tu le...
Quand on était gamin ?
Gamin, 15 ans okay. À mes 18 ans. Et tu buvais ça avant de sortir en boîte ou d'aller en soirée. Et c'est dégueulasse.
Tu nous l'as bien vendu, cet alcool, dis donc. Hein. C'est dégueulasse, ça se boit en pack de lait. Écoute, je te propose, avant de passer à la séquence suivante, qu'on se fasse une petite dégustation.
C'était sûr, putain.
Je suis allé dans un magasin spécialisé en produits latins.
Ouais.
D'Amérique latine. On goûte donc l'aguardiente. C'est comme ça que ça se prononce.
Aguardiente.
Amarillo. C'est pas si fort que ça en fait.
Non, t'es à 20. Bah, voilà. 24, regarde. 24% d'alcool. Le problème, c'est que on boit en shot comme ça.
Tu vois. En shot.
Tac et boum.
Ah non.
Ah bah oui.
Ah oui.
Bah oui.
Oula.
Mais c'est pour ça.
Bon bah allez, c'est parti.
T'es sûr de toi?
Ouais. Pourquoi? Tu travailles tout à l'heure?
C'était mon après-midi sans alcool.
Bah y a pas d'alcool. C'est sans alcool.
Tu vois, nous on fait comme ça et on le boit direct.
C'est doux. non mais je m'attendais à un truc qui m'arrache l'œsophage. Non, c'est pas hyper intéressant.
On est d'accord.
Ouais.
T'as le goût du pastis après, mais t'as pas la fraîcheur, t'as pas la buvabilité, t'es pas en train de... En plus, quand tu bois un pastis, t'as de la flotte dedans.
Et puis,
donc là, tu bois des shots comme ça. Ouais.
Ça se mélange pas.
Je vais donner un truc que j'ai jamais dit à personne. Ça, quand t'as une digestion difficile...
Ouais.
Le goût que t'as, c'est affreux quand tu vomis ça parce que t'as un peu abusé. Okay. Oh putain.
Ça, oh, on sent l'expérience qui parle.
C'est horrible.
Ok.
Donc c'est pour ça, moi, c'est aujourd'hui quand je bois ça, j'ai plus le souvenir de moi tête dans les tuchios.
Ça fait longtemps que t'en avais pas bu.
Ouais, je bois avec des copains colombiens parce que c'est notre tradition, on est un peu obligé, mais c'est pas, je prends pas de plaisir à boire ça.
On rebouche.
Mais ça a fait plaisir.
On passe à Balance ton mot maintenant.
Balance ton mot, le concept, vous allez voir, c'est très simple, mais un peu pupute.
Balance ton mot, c'est très simple, je te cite un nom, tu me donnes un mot pour décrire la personne que je vais te citer. Pierre Gagnère.
Maître.
Yannick Aleno.
Précision.
Stéphane Bern.
D'histoire.
Bah, si t'as envie de me dire un peu plus que...
Ah, quand je respecte les règles, je me fais engueuler. Quand je respecte pas, je me fais engueuler.
Un ou deux, ou trois, ou quatre.
Stéphane Bern, non, je l'adore, c'est un grand monsieur. J'ai fait.
T'as bossé avec lui, hein, ouais.
Ouais, j'ai bossé avec lui. Et d'ailleurs, j'ai même été déjeuner à Paros avec lui en Grèce, en vacances, dans sa maison. Très cool. Enfin, c'est un mec que j'adore, que j'apprécie énormément et qui m'a beaucoup appris sur la télé.
Norbert Tarrère.
C'est un des mecs les plus vrais que j'ai jamais croisé. Je l'adore. Hyper cool. Je le vois pas assez.
Denis Imbroisi.
Lui, c'est le feu. C'est le feu pur. C'est la terre, c'est le ciel, c'est le sang. C'est le sang de la veine. Denis, c'est la personne que je connais le plus vieux en France. Enfin, c'est mon frère. C'est, ouais. Tu sais, c'est la famille que il y a la famille naturelle et la famille que tu choisis. Lui, c'est ma famille que j'ai choisie. Mmh. On a vécu les moments les plus durs et les plus hard ensemble et les meilleurs. J'aurais pas pu rêver mieux de quelqu'un qui accompagne ma vie.
Dernier nom, Juan. Juan. Non, attends, Arbela. Juan Arbelaez.
Ouais. On l'a.
Je me mets une pression tout seul. Qu'est-ce que tu te... Comment tu te décrirais, toi?
Je dirais que j'aime bien... Comment tu peux expliquer ça? J'aime bien mettre les bouchées doubles. J'aime pas faire les choses à moitié. J'adore tout ce qui touche aux humains. J'adore... Je suis très humain et j'adore ça. J'aime bien le fait de... Peu importe le projet, j'aime bien qu'il y ait des gens et rencontrer des gens. Je suis infatigable, je suis hyper actif et j'adore ça. Et la meilleure des aventures, c'est celle que je connais pas, c'est celle qui me reste à vivre. Donc on n'a pas fini.
Il reste quelques secondes. Alors avant de partir, c'est la tradition. Je ne sais pas si ça va durer très longtemps cette bêtise qu'on a mis en place, mais tu as le droit de me poser une question. Celle que tu veux, je suis obligé de répondre.
Bah en vrai, on va se venger, non? On a tous à savoir quelle drogue il se met. Hein.
Mais je me suis dit, il a oublié. Aïe, aïe, aïe. Bah écoute, moi...
Sois honnête, hein.
Ouais, alors là, franchement, honnête. Déjà, je déconseille à tout le monde de prendre de la drogue.
Ouais.
Moi, j'ai fumé longtemps. Très longtemps.
Ouais.
Des pétards. J'ai arrêté depuis un an.
Ah ouais, bravo. Voilà,
merci. Et oui, ça m'est arrivé de prendre des champis aussi dans ma jeunesse et d'autres choses.
Bon, en vrai, on va arrêter là.
Voilà.
On veut que ta carrière continue quand même.
Rien qui vient de Colombie.
Ok.
Tu vois, voilà. Mais non, ne le faites pas. C'est
mais
pas
ça
bien,
venait du Pérou.
Non, mais aucune drogue très dure, voilà.
Ouais.
Des trucs... J'ai pas envie d'expliquer en fait là.
Non, non, t'inquiète, c'était bio, c'est ça ?
Hein ?
C'était bio.
C'était bio, exactement. C'était, ouais. Et c'était naturel, voilà.
C'était une question un peu complexe.
Complexe, ouais.
Bravo.
Mais on va se quitter sur, sur ce moment de gêne pour moi et te laisser la parole, puisque pour terminer l'émission, je vais te laisser tout seul. T'as 30 secondes avant qu'on coupe pour dire ce que tu veux. Tu peux faire ta promo, tu peux raconter autre chose, tu peux dire, tu peux chanter, tu peux faire une poésie, fais ce que tu veux, je te laisse tranquille. Et c'est à toi, le micro est à toi. Merci d'avoir été mon invité. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Salut.
Heureusement que j'ai bu un aguardiente là. Je sens la chaleur monter et la créativité descendre. quoi dire, non, c'était un moment assez incroyable et merci Alexis de nous faire kiffer avec toutes tes balades, les mises en avant de tous les restaurants. Je pense que c'est un métier qui est pas simple et tu le fais de façon exceptionnelle. Tu dois te prendre quelques portes plutôt que se fermer que celles qui s'ouvrent au début, et t'as montré et t'as réussi un pari assez dingue, donc bravo. Pour ma part, rien, je vous aime. Continuez à nous critiquer, à nous draguer, à nous envoyer des messages, à nous encenser, à partager, à regarder, à twister, à continuer, parce que c'est ce qui nous fait aussi vivre. C'est vous. À bientôt!